C'est toujours avec une grande joie que je retrouve ce pupitre spécialement conçu pour que je fasse des séances de kiné après, à chaque fois en rentrant. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je remercie notamment les personnes qui sont occupées de l'intendance pour cette journée. Et je remercie les familles aussi, enfin tous ceux qui sont venus. Il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait pu faire un jour de congé comme ça, un jour de l'ascension, c'est vrai. Et je vous remercie parce que vous avez pris du temps pour quelque chose d'important, c'est vrai. Le fait de passer du temps avec d'autres chrétiens, puis de réfléchir à la parole de Dieu. Voilà, donc on a un dernier thème à voir ensemble, c'est celui de l'orgueil et de l'humilité que nous allons voir ensemble. En avril 1598, la cour du roi de France s'est déplacée jusqu'à la ville d'Angers. C'est dans cette ville que nous habitons. Henri IV est venu avec toute sa suite. Pendant un mois, ils ont vécu à Angers. D'ailleurs, les échevins n'étaient pas très contents, les bourgeois, parce qu'ils ont dû être à la solde du roi pendant tout un mois. C'était pour préparer la signature de l'édit de Nantes. D'ailleurs, pour ceux qui sont forts en histoire, si vous le savez peut-être, en fait, l'édit de Nantes a été rédigé, préparé à Angers. Devait s'appeler l'édit d'Angers, en fait. Mais enfin, ce qui s'est passé, c'est que le chef de la Ligue catholique, qui devait signer l'édit avec Henri IV, se faisait attendre à Nantes, et Henri IV s'est impatienté, et il a descendu la Loire pour aller jusqu'à Nantes, pour aller signer l'édit de Nantes. Mais en fait, c'est nous qui devrions être célèbres à Angers. Bon, c'est non. Mais le jeudi juste avant le vendredi saint d'avril 1598, il y a eu quelque chose d'assez spectaculaire qui s'est produit. C'est que le roi de France, comme c'était la coutume à cette époque, a lavé les pieds de quelques pauvres dans la ville d'Angers. Ça se faisait à cette époque. Et alors, donc, le roi de France, Henri IV, s'est agenouillé, hein, s'est humilié, c'est le cas de le dire, pour laver les pieds de quelques personnes, de gueux, hein, de pauvres dans la ville. Je me suis toujours demandé, mais comment ils faisaient pour choisir les 10 malheureux là, toi, toi et toi. Je pense qu'ils auraient peut-être préféré une petite obole, une obole plutôt que de se faire laver les pieds. Mais enfin, ils ont été choisis. Et le roi s'est humilié pour leur laver les pieds. Alors, était-ce une vraie humilité? Je ne sais pas, on ne va pas porter de jugement sur Henri IV. En tout cas, c'est un geste qu'il a accompli, c'était sans doute quelque chose d'assez fort. Et donc, cet après-midi, là, pendant quelques instants encore, on va réfléchir à ce concept, au contraste, c'est vrai, entre l'orgueil et l'humilité. Et c'est vrai que c'est un grand contraste. Et pour essayer de lutter contre l'orgueil dans ma vie, il va falloir justement que j'établisse un grand contraste entre ma personne et celle du Seigneur. En fait, c'est ça l'antidote à l'orgueil, l'antidote, on va dire, quotidien, hein. Et c'est pas un antidote que je prends tous les jours, je vous rassure. Je suis pas encore arrivé. Mais ce qu'il me faut vraiment, c'est saisir la grandeur de mon Dieu et la bassesse, si on veut employer le terme, de ma propre personne. Et c'est ça, en fait, l'antidote. Il n'y a pas un séminaire spécial auquel on pourrait assister, ou, je ne sais pas, enfin, il y a des livres qu'on peut lire sur l'humilité, il y a des choses qui peuvent nous aider, mais enfin, c'est quelque chose que je dois apprendre, en fait, avec le temps et à la lecture de la parole et en regardant au Seigneur. C'est ainsi que je développe dans ma vie l'humilité. Une personne m'a dit une fois, texto ce que m'a dit la personne, elle m'a dit, « Oh, vous savez, il n'y a pas plus humble que moi. » Et c'était en toute sincérité. « Il n'y a pas plus humble que moi. Je suis l'humilité même. » C'est ce que m'a dit cette personne. Et en plus, c'était une personne, pas spécialement imbue de sa personne, mais voilà. Visiblement, la personne n'avait pas tout à fait saisi la signification du concept de l'humilité. C'est quelque chose qu'on apprend. Et quelque part, on va dire que l'orgueil du chrétien, du croyant, témoigne obligatoirement de ce qu'on pourrait appeler une myopie spirituelle. Une myopie spirituelle. Alors, je sais pas s'il y a des gens ici qui sont myopes, excusez, ne levez pas la main, mais voilà, merci de ce témoignage. Mais c'est vrai que c'est une terrible capacité des créatures de Dieu de développer temporairement, dans certains cas, j'ai envie de dire éternellement, je pense par exemple à Lucifer, qui est le diable, qui est dans l'imperfection, hein, qui est dans l'imperfection et qui trouve le moyen de ne pas être humble et de dire, ben non, je veux m'élever encore plus haut. On peut citer aussi Adam et Ève dans le jardin. Tout est pourvu, tout est en bon état, il y a tout ce qu'il faut, tout est bien. Et il y a la grandeur, la bonté, la majesté de Dieu, mais quelque part, il y a un décalage qui est produit et du coup, donc on tombe de très très haut. Donc, cet après-midi, ce que je vous propose pendant quelques instants, c'est qu'on se tourne vers un passage, en fait, un seul passage. Parmi tous les passages dans la Bible, il fallait bien en cibler un, donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Et on va dire que c'est comme un examen chez l'ophtalmo. 1 Corinthiens chapitre 4. La bonne manière de se voir et de voir les autres aussi, notamment dans le cadre de la vie d'église, notamment dans le cadre de nos relations avec les autres croyants. Très important que nous déterminions, que nous ayons très envie de ne pas démontrer l'orgueil dans le cadre du contact avec d'autres personnes, dans le cadre de la vie d'église, là où justement, bien, elle fait souvent irruption. Et donc, je vais vous dire cet après-midi, à l'aide de ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, on va lire trois versets seulement, que l'orgueil affecte très sérieusement ma vie chrétienne. Ou peut affecter très sérieusement ma vie spirituelle. Elle affecte très sérieusement ma vie chrétienne. Et je dirais pour nous qui sommes dans le ministère, entre guillemets, on est tous dans le ministère. Si on appartient à Jésus-Christ, on est tous dans le ministère. Mais pour tous ceux qui sont pasteurs, ça nous affecte encore plus, ou ça peut nous affecter encore plus, cet orgueil dans notre vie chrétienne et dans notre ministère. 1 Corinthiens chapitre 4, et en fait, nous lisons simplement les versets 6 à 8, où Paul dit ceci. Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Des propos fort ironiques de la part de l'apôtre Paul dans ce passage, pour essayer de prendre de court un peu ces Corinthiens dont il a déjà été question cet après-midi. Eh bien, comment notre vision chrétienne sera-t-elle affectée par un manque d'humilité? Eh bien, d'abord, parce que cela fausse les relations entre chrétiens. Un problème d'humilité dans ma vie, dans la vôtre, va forcément avoir des conséquences au niveau des relations avec les autres chrétiens, en particulier dans une assemblée. Si j'ai un problème d'orgueil dans ma vie, eh bien, ça va fausser la relation, il va y avoir déformation avec les frères et sœurs dans l'Église. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé à Corinthe, où les Corinthiens, qui avaient toutes sortes de problèmes, eh bien, ont commencé à mal voir les dirigeants, en particulier Paul et Apollos, et sans doute Pierre et d'autres personnes aussi. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 6, « Mais j'ai dû parler d'Apollos et de moi-même à cause de vous. » parce que vous, vous nous voyez mal, vous aviez tendance à faire des comparaisons, vous, justement, vous étiez orgueilleux, donc cela vous portait à croire que vous pouviez porter des jugements sur tel ou tel personnage, et vous n'aviez pas compris quel était notre rôle, quel était notre arrière-plan, quel était notre cœur, en fait. Votre orgueil a dénaturé votre perspective. Et vous ne nous avez pas bien compris. Alors, donc, ici au verset 6, il dit, j'ai usé de ces images, en parlant de ceux dont il a parlé précédemment, au chapitre 3, en parlant par exemple chapitre 3, verset 4, il cite ce qui était apparemment devenu quasiment un dicton à Corinthe, hein, chapitre 3, verset 4, « Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs et par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, etc. etc. » Donc le problème des Corinthiens, c'était à cause de leur orgueil, eh bien, ils avaient du mal à juger les personnes. Et ils ne les considéraient pas correctement. Alors on le sait que dans cette église de Corinthe, hein, où il y a, tu l'as évoqué, hein, il y a plein de problèmes, il y a des procès, il y a de l'immoralité, il y a de l'inconduite, enfin il y a toute une liste de problèmes. Mais quand on regarde le lien entre toutes ces choses, mais c'est quoi ? C'est pas géographique, c'est pas parce que c'est sur l'isthme de Corinthe, hein, c'est pas parce que c'est en Grèce. Le problème qui lie tous ces péchés à Corinthe, c'est en fait l'orgueil. C'est l'orgueil, et on le voit aussi parce que quand Paul dit vous êtes enflé d'orgueil, hein, il le dit là à la fin du verset 6, il utilise la même expression, je crois, à 5 autres reprises, ne serait-ce que uniquement dans le livre de 1 Corinthiens. Donc il revient là-dessus, il dit, mais vous avez vraiment un problème avec l'orgueil dans votre assemblée. Et ça cause toutes sortes de difficultés. Ce que je trouve intéressant, c'est que Paul ne donne pas une stratégie particulière pour lutter contre l'orgueil. Il explique simplement le problème que cela produit, il explique la déformation, et il dit, ben voilà, faut arrêter. Faut être humble et arrêter d'être orgueilleux. Donc il va partir du principe que les Corinthiens qui connaissaient assez bien la Bible, connaissent déjà Proverbe 3, 34, hein, qui dit que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Verset que va reprendre quelque temps plus tard, ou à peu près au même moment, Jacques, plus tard Pierre. Donc il part du principe qu'ils sont déjà au courant. Il faut juste qu'ils s'arrêtent d'être aussi orgueilleux. Donc les opinions personnelles des Corinthiens, leur fierté en leur propre jugement, concernant les divers responsables, et concernant les autres, étaient devenues un réel souci. C'était devenu vraiment problématique. Ils avaient tellement d'opinions, leurs sentiments jouaient, et ils avaient des préférences, et c'était devenu vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et tout ça, c'était basé sur rien de concret. C'était basé que sur des impressions, des mauvaises perceptions. Et ça a été évoqué ce matin, par le frère Boada. C'est vrai que c'est un problème encore aujourd'hui. Des perceptions, des impressions, des préférences qu'on a par rapport à des pasteurs ou à des personnes différentes. Vous savez, quand on ne s'entend pas avec des gens, c'est parfois parce qu'on a simplement effectué des mauvais jugements. C'est pas toujours parce qu'il y a des problèmes de personnalité. C'est peut-être simplement parce que c'est nous qui devons évoluer sur la chose. Il y a quelques années, j'avais visité avec ma famille le musée de la Réforme à Genève. Un musée très, très intéressant, d'ailleurs, je vous le recommande. Musée de la Réforme à Genève, très bien fait, très bien conçu. Et au sous-sol, il y avait une exposition de dessins sur Calvin et sur d'autres. Et alors, il y avait un dessin moderne qui m'avait vraiment interpellé. C'est comme une BD. C'était un dessinateur qui avait dessiné des bourgeois de Genève qui sont autour d'une table à l'époque de la réforme justement, et ils sont autour d'une table, ils ont leur chope de bière à la main, ils sont là en train de discuter avec leurs habits de Suisse, hein, de Genève, et puis il y en a un qui dit « Ce Calvin, je ne le sens pas. Ce Calvin, je ne le sens pas. » Et ça m'avait interpellé, ça m'avait fait un peu sourire avec un langage un peu moderne, mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça aussi dans notre église moderne où, pour des raisons qui ne sont pas vraiment bonnes, on évalue des personnes et on dit « Tiens, je préfère telle personne, je préfère tel pasteur à tel pasteur » ou voilà. Sur des bases qui ne sont pas très saines en fin de compte. On déforme un peu les bonnes relations entre chrétiens. Donc l'orgueil occasionne des troubles au sein même, non seulement de notre vie privée. Alors si je vous dis que l'orgueil, ça va causer des problèmes dans votre famille ou dans votre couple, vous allez dire, c'est une évidence, tu m'apprends rien du tout là. Mais là, dans le passage, le contexte, en fait, explique ou revient sur le point que le manque d'humilité, ça sera aussi un grand problème pour notre vie d'église. Ça va créer des problèmes dans nos relations au sein d'une même communauté. Et ça, c'est très important de le saisir. C'est vraiment urgent qu'on reconnaisse que même dans un contexte spirituel, religieux si on veut, là où la piété, la grâce, la maîtrise de soi doit être démontrée, eh bien, il y a de fortes chances pour que l'orgueil aussi puisse faire irruption. On a un exemple assez frappant dans l'Ancien Testament d'un roi de Juda, où on voit cette espèce de fausse alliance entre un désir de piété et l'orgueil. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, c'est le roi Ozias. Vous vous rappelez de ce roi dans, je crois, c'est 2 Chroniques 26. Et alors, ce roi, c'était un bon roi, hein, un roi qui était fidèle, hein, principalement. Et il y a eu un jour, à mon avis, ça ne l'a pas pris comme ça d'un seul coup, mais peut-être il est cogité, hein, sur ce thème, et il s'est dit, mais c'est quand même quelque chose, l'adoration du Seigneur, et je ne suis pas prêtre, mais je me demande ce que c'est que d'aller dans le temple. Je me demande quel effet, quel est le sentiment que ça produit que d'aller, de pénétrer dans le temple et d'offrir de l'encens. Alors, je vais parler dans le Saint des Saints, bien sûr, ça c'est réservé aux prêtres une fois par an, mais j'ai très envie d'avoir cette sensation de je veux aller, et la Bible nous montre que c'est l'orgueil. Il a été pris d'orgueil. Il s'est dit, mais après tout, je suis le roi, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas lévite, mais je suis le roi. Alors, il a essayé d'entrer, puis vous connaissez la suite, il a été frappé de lèpre, et les prêtres lui ont dit, mais écoute, c'est vraiment pas bon là ce qui se passe, et puis ils l'ont escorté, puis lui-même est sorti, et il a eu une grande dose d'humilité sans doute par la suite. Donc, chaque fois qu'une pointe d'orgueil fait irruption dans ma vie lors d'une rencontre de membres par exemple, ou lors d'une prise de décision dans l'église, ou quand on respecte pas un autre croyant, ou quand un pasteur passe au rouleau compresseur sans consulter qui que ce soit, eh bien on ne peut pas avec justesse mesurer les dégâts qu'on va occasionner. Hein? Quand je fais pas attention, quand je deviens orgueilleux, dans le cadre de l'Église, je parle dans le cadre de l'Église, je ne parle pas des autres cas de figure, mais dans ces autres cas de figure aussi, il y a des gros dégâts. Mais au niveau d'une communauté de chrétiens, parce que là, en principe, on est entre amis en Jésus, là. D'accord? Bon, je pars du principe, je ne sais pas, mais je suppose que si vous êtes là, vous passez toute votre journée à vérité dans l'amour, c'est que vous êtes moyennement intéressé par la parole de Dieu et par le fait de marcher avec Christ. Bon, je vous ai déjà congratulé tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, mais on est avec Christ. Alors à ce moment-là, eh bien, attention, il y a un grand danger quand je fais preuve d'un manque d'humilité, ça fausse les bonnes relations entre chrétiens. Et c'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Alors, comment ma vie chrétienne va-t-elle être affectée aussi si je fais preuve d'orgueil? Eh bien, je note aussi avec le verset 7 que, c'est la deuxième raison, cela occasionne le phénomène de l'ingratitude. cela occasionne le phénomène de l'ingratitude. Si je ne fais pas attention, s'il y a un réel manque d'humilité dans ma vie, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des ingrats. N'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il dit au verset 7. Hein, quand il explique aux Corinthiens, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu? Nous avons tout reçu de Dieu. On est bien d'accord. Nous avons tout reçu de Dieu, en particulier les capacités spirituelles. Ce qu'on appelle parfois, dans le Nouveau Testament, on utilise l'expression don spirituel. Peut-être un concept un peu nébuleux pour certains, mais c'est-à-dire des capacités. Des capacités à servir le Seigneur. Alors, déjà, on a tout reçu du Seigneur, de toute façon, mais encore plus, toute capacité à être une aide à notre Église, ou à être en interaction avec d'autres chrétiens. Mais tout ça, ça vient forcément du Seigneur. Alors, ça devrait produire dans notre vie de grandes doses de gratitude. Mais l'orgueil a cette capacité de nous voiler la face. Et on oublie ce que le Seigneur nous a donné. Donc, faisant preuve d'ironie, il y a une place pour l'ironie dans l'explication de la vérité. Il ne faut pas que ce soit constant. Vous remarquez que quand Paul écrit, il utilise parfois des propos un peu ironiques. Mais enfin, ce n'est pas tout le livre non plus. Ça ferait beaucoup. Hein. Mais ici, il ironise avec les Corinthiens en leur disant, mais qu'est-ce que tu as de spécial? Et qu'est-ce que tu n'as pas reçu du Seigneur? Sous-entendu, rien. Rien du tout. Donc, aucun de nous n'est en soi exceptionnel. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, vient en définitive du Seigneur. On est bien d'accord. Et en particulier, toute capacité, tout ministère, toute implication dans une vie d'église. À quand Paul dit, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Curieux comme expression, n'est-ce pas? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pour autant qu'il y ait des capacités spirituelles, des choses que vous pouvez faire dans l'église, ou je ne sais pas, l'évangélisation, ou le fait de partager avec d'autres chrétiens, ou d'être extrêmement généreux, enfin, quelle que soit la capacité spirituelle, quel que soit le don, nous n'avons pas lieu de nous glorifier parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Et si Dieu nous les a donnés, c'est que justement il n'y avait rien au départ. N'est-ce pas? S'il fallait qu'il nous les donne, mais c'est que il n'y avait pas de capacité particulière au départ. Alors, je ne parle pas des talents personnels qu'on peut avoir les uns et les autres. Je parle de la capacité que Dieu me donne d'intervenir dans une église ou de partager avec d'autres personnes ou d'avoir un ministère, quel qu'il soit. Eh bien, si Dieu me donne cette capacité, forcément au départ, eh bien, ça n'existait pas. Capacité d'enseigner les enfants, d'avoir la patience dans la garderie, c'est pas pour tout le monde. Capacité spéciale pour évangéliser, hein, comme on parlait de Larry Pierry. La sagesse, le discernement, quelqu'un qui, quand il y a justement une réunion de membres qui ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, ce sont des propos intelligents, ce sont des choses qui sont probantes. Quel que soit le don spirituel, mais ça vient réellement du Seigneur. Alors, je pense que nous, avec le recul, nous sommes un peu plus fins que les Corinthiens, la plupart du temps. On est un peu plus mesurés. Nous reconnaissons que nous avons reçu la capacité de servir le Seigneur de sa main. En tout cas, en théorie. On dit ça vient du Seigneur. C'est ce qu'on dit dans nos témoignages. Voilà, grâce à Dieu, j'ai fait ça. Bon, là où ça coince un peu, c'est dans l'exercice de nos capacités. C'est comment on met en œuvre ce que Dieu nous a donné la capacité de faire. Parce que il nous arrive, à nous, eh bien, de laisser place à l'orgueil, hein, d'étouffer notre humilité. Peut-être lorsque nous sommes en désaccord avec une personne, on a du mal à exprimer notre désaccord avec humilité. on a du mal à, quand il y a peut-être une assemblée de membres, on a du mal à prendre sur nous, à pas trop parler. On a du mal, là je parle notamment des responsables, peut-être on a du mal parfois à être transparent, à montrer aux gens dans les églises qu'on n'est pas faillible et qu'on commet des erreurs. Alors on dit « je commets des erreurs », mais parfois on se comporte comme si ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on fasse attention à cet orgueil dans notre vie. Un autre aspect que je pourrais souligner peut-être, et là je pense qu'on est tous impliqués, c'est celui de... C'est pas qu'on veut être élevé forcément au-dessus des autres, c'est pas qu'on veut être reconnu publiquement par tout le monde, mais on aimerait bien un minimum de reconnaissance. On veut un minimum de reconnaissance. On veut pas toute la gloire, mais enfin, on en veut un petit bout quand même. Juste un tout petit bout, juste assez pour que j'ai assez d'énergie pour continuer jusqu'au mois prochain. Il y a un ouvrage chrétien qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, je ne sais pas s'il sera traduit en français, mais très intéressant. Le livre s'intitule quelque chose comme accueillir l'obscurité ou accueillir l'anonymat. Il a été écrit par apparemment un chrétien ou peut-être même une chrétienne, je ne sais pas, de renom. Seulement, voilà, le nom de l'auteur a été omis. Et donc le livre, c'est assez frappant d'ailleurs parce que vous avez le titre du livre et c'est marqué en dessous anonyme. Et c'est vraiment anonyme. Le livre est vraiment, jusqu'à ce jour, il est resté anonyme. Et en fait, c'est d'ailleurs le thème du livre, c'est accepter d'être même anonyme pour Christ. Accepter d'être même anonyme pour Christ. Parce que c'est très difficile. Encore une fois, on est d'accord pour dire, voilà, je veux pas toute la gloire, toute la gloire revient au Seigneur. Mais enfin, j'aimerais bien quelques petites paillettes de gloire quand même. J'aimerais bien que quelques proches me reconnaissent. Et cet auteur, cet homme ou cette dame, au cours de cet ouvrage, explique que dans certains cas, eh bien, il est fort possible que Dieu veut que nous restions totalement anonymes. Que personne ne sache que le bien que j'ai effectué, ou que vous avez effectué. Et qu'à la fin, c'est Dieu qui vous récompensera. Voilà. Donc ma vie chrétienne est affectée par l'orgueil en ce sens que je peux devenir un ingrat. Vous me montrez un ingrat, vous m'avez montré un orgueilleux. Et vice versa. Un orgueilleux, c'est forcément un ingrat, un grand ingrat. Et malheureusement, nous le sommes parfois. Nous le sommes parfois. Nous sommes parfois des ingrats. Alors, Paul enchaîne au verset 8. En répondant à cette question, alors là c'est moi qui pose la question, mais comment notre vie chrétienne est-elle affectée par le manque d'humilité? Eh bien, donc j'ai évoqué pour l'instant jusqu'ici, j'ai évoqué le fait que cela fausse les relations entre les chrétiens, ça cause des problèmes au niveau de l'entente, ça occasionne le phénomène de l'ingratitude, et troisième, et c'est mon dernier point, donc rassurez-vous, le manque d'humilité provoque une déformation de la pensée. Une déformation de la pensée. C'est-à-dire, pour faire simple, quand on est orgueilleux en tant que chrétien, ben on voit pas très clair, en fait. On voit plus très clair. Et on a un beau verset là pour nous montrer cette problématique, c'est le verset 8, où Paul, alors vous avez vu hein, la lecture, c'est que de l'ironie. C'est que de l'ironie. Hein. Mais ça montre à quel point les braves Corinthiens... Mais vraiment, il y avait des soucis dans leur compréhension. Tellement ils en étaient rendus à un point de confusion. Et donc, il y a une déformation même, on peut dire, de la pensée. Parce que Paul dit, mais déjà, vous êtes rassasiés. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quelques années, il y avait un homme qui fréquentait l'église à Angers. Et cet homme, comme certains avaient des problèmes avec l'alcool. Et de temps en temps, il appelait à la maison. Et quand il appelait à la maison, il tombait sur une de mes filles, ou voilà. Et alors il disait, il commençait à il parlait, il était très volubile, hein, par le biais de cette gentille substance. Et il disait voilà, tout va bien, mais tout va bien, tout va bien. Et quand ce brave monsieur commençait à dire tout va bien, on savait tout de suite que c'était l'alcool. Plus il disait tout va bien, et nous on savait que tout n'allait pas tellement bien en fait. Et ça c'est les Corinthiens. Il dit, tout va bien. Au début du livre, au début du chapitre 1, Paul dit, mais c'est vrai que vous avez, il y a tous les dons. Tout est en place pour que ça aille bien. Au chapitre 6, il va parler de quelques miracles de conversion. C'est vrai que c'était génial au préalable, hein, tout ce qui s'est passé à Corinthe. Il y a des gens, mais vraiment des gens qui étaient tombés très très bas, qui se sont tournés vers Jésus-Christ. C'est vrai que c'était excellent. Mais ensuite, il y a eu tous ces problèmes. Donc Dieu les avait comblés de sa grâce. Il leur manque aucun don spirituel. Tous les ministères sont pourvus. Alors si je peux transposer, hein, jusqu'à aujourd'hui, il ne manque personne pour gérer la garderie. Quelqu'un s'occupe sans doute du ménage. Les gens de passage, les invités, sont correctement accueillis par un comité d'accueil. Il y a des prédications intéressantes. Le bâtiment est en bon état, mais tout est bien, semble-t-il. Sauf que Paul va se lancer donc dans un long diatribe, en quelque sorte, hein, des problèmes de cette église, parce qu'il y a ce souci de pensée et de comportement. Il fait un constat, en fait, assez alarmant, n'est-ce pas? Il fait un constat alarmant de ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Et en fait, la réalité, c'est que tout n'allait pas bien du tout, et au contraire, ils étaient rongés de l'intérieur. Ils étaient vraiment rongés de l'intérieur. Ils règnent, vous avez compris, ils règnent, ou ils croient régner, hein, dans le sens qu'ils se disent, mais tout baigne, quoi, hein, voilà, tout va bien, on a tout ce qu'il faut, pas forcément dans un sens prophétique, pas forcément dans le sens de dire, bah tiens, on est carrément dans le royaume de Dieu, on est carrément dans le millénium. Je pense pas que c'était ça, je pense qu'ils disaient, mais on se comporte comme si l'évaluation de Christ, qu'on appelle le tribunal de Christ, dont il est question dans le chapitre 3 et aussi dans 2 Corinthiens, le tribunal de Christ a quasiment déjà eu lieu. On a déjà été évalué, on a eu notre couronne, mais vraiment tout va bien. Dans ce sens-là, on règne. Et Paul, donc, il continue d'ironiser, il dit, mais on aimerait bien régner avec vous. On aimerait bien que ce soit le cas, hein, qu'on passe ce stade-là, qu'on soit arrivé au stade où effectivement, ben voilà, tout s'est mis en place, on a vu Christ et on est avec lui, voilà, ce serait bien. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et vous avez encore cette grande problématique. À la rigueur, on aurait pu comprendre, humainement, qu'un apôtre, comme Paul, qui avait vu Jésus-Christ, hein, qui avait conversé avec Christ, qui avait été enseigné directement par Christ, se sente humainement supérieur. À la rigueur, on aurait pu comprendre. Bon. Mais ce n'est pas le cas, hein. Ce sont les autres croyants, qui sont moins nobles de cœur, qui se sentent supérieurs. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques instants que l'orgueil produit une sorte de déformation de la pensée, hein, au point où l'apôtre qui a vu Jésus-Christ, eh bien c'est un moins que rien. C'est quelqu'un qu'on prend pas au sérieux. On dit qu'il est faible et on le critique. Ben pourquoi? Ben simplement par orgueil. Donc mon manque d'humilité, occasionnel ou pas, affectera mes réflexions, ma pensée, ça affectera mon service dans l'église, les partages formels et informels, mes propos, jusque même les prédications qu'on peut apporter. Même là, si on ne fait pas attention, peut nous affecter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relit 1 Corinthiens 4, 6 à 8, à longueur de journée, qu'est-ce que je fais? Mais d'abord je me méfie de moi-même. je me méfie, et vous vous méfiez de vous-même. Parce que on a tous la capacité à s'enorgueillir. On se méfie. On n'arrive jamais complètement au bout du compte, au bout du moment de cette terrible faculté, de cette terrible capacité qui est de tomber dans l'orgueil. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est accueillir des éléments qui vont venir périodiquement dans ma vie ou dans la vôtre pour maintenir l'humilité dans la famille, dans notre travail et dans notre ministère. Le Seigneur fera intervenir des choses qui nous abaisseront de temps en temps et ce sont des choses salutaires. On les apprécie pas tellement, n'est-ce pas? On ne les aime pas, mais c'est des choses que Dieu fait intervenir. Il y a un excellent moyen pour rester humble, c'est d'avoir des enfants. Je vous le recommande. À plein de niveaux différents, mais combien de fois m'est-il arrivé de dire quelque chose à une de mes filles, de peut-être même de les reprendre, et je suis en train de les reprendre, que dans mon esprit je me rends compte que de temps en temps je fais exactement la même chose. Je suis en train de dire la parole. Et en mon fort intérieur, je me dis, mais tu es hypocrite aussi, tu fais un peu pareil toi aussi. Alors, je finis ma phrase quand même pour ma fille, hein, parce qu'elles ont besoin de l'entendre, mais je me reprends. Et donc, le Seigneur permet des situations parfois, mais on ne les apprécie pas du tout. Elles sont extrêmement déplaisantes. Personne n'aime être humilié. Je ne le désire pas, mais j'essaie de reconnaître le fait que le Seigneur fait intervenir ces choses dans ma vie parce qu'elles sont nécessaires. Et qu'elles sont salutaires. Et si je ne fais pas attention, si je ne fais pas attention à l'orgueil dans ma vie, eh bien, ça risque d'avoir des conséquences très néfastes. Vous savez, si on avait demandé aux Corinthiens, mettons six mois, un an avant cet épisode, si on leur avait dit, écoutez, mettons 2 ans avant, voulez-vous l'Église avoir des cas d'immoralité assez grossiers. Quelques procès, des gens qui font des beuveries lors de la Sainte Cène, plein de problèmes, mépriser celui qui a fondé votre église. Est-ce que vous serez d'accord, vous signez là sur cette charte là pendant quelques années à Corinthe? Ah oui, on se prend. Non, sur le coup, ils auraient dit mais pas du tout, on veut pas ça. On veut servir le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, comment ils n'ont pas fait attention. Il n'y a pas eu cette humilité dont il a été question cet après-midi. Et avec le temps, bien, on ne peut pas. Les dégâts qui sont occasionnés par l'orgueil sont imprévisibles. Je ne peux pas comme ça statuer sur ce qui va faire, ce qui va se passer si je ne fais pas attention. Je ne peux pas prévoir ces résultats. Je peux juste faire attention. Je peux juste me méfier et accueillir ces choses qui vont intervenir dans ma vie pour que je fasse attention. Alors, Jérémie, tu l'as évoqué tout à l'heure. En tout cas, ce concept. Je vais faire une prophétie maintenant. Je lève la main, je prophétise sur vous tous, mes frères et sœurs. Un jour, vous allez être humbles. Vous allez tous être humbles. Oui, c'est vrai. C'est ce qui va aboutir. C'est vrai qu'on va tous être humbles. Alors, humbles à 100%, pas dans cette vie. D'accord? Mais, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, si c'est votre sauveur, je peux vous garantir qu'il y aura un jour une fin à l'orgueil. Il y aura un jour, un moment où l'orgueil, tel que nous le connaissons aujourd'hui, disparaîtra entièrement de notre vie et même de tout ce qui existe. Parce que nous serons avec Jésus-Christ. Et là, complètement transformés, complètement changés. Et à ce moment-là, eh bien, nous ressemblerons vraiment à Jésus-Christ. Donc il y aura la fin de l'orgueil, heureusement. La fin de ce syndrome-là, je peux regarder dans l'avenir et je sais qu'un jour je serai avec Christ et il me transformera. D'ici là, je risque d'avoir quelques tentations. Je risque d'avoir des moments où je ne vais pas faire preuve d'humilité. Et c'est pour ça que je dois me rappeler des Écritures, de ce grand décalage entre mon Sauveur et ma personne, et comment il s'est abaissé vers moi. C'est sur ces pensées que nous allons clore cette partie de cette prédication. Je vous invite à prier avec moi.